Souvenir FM.
Il est midi.
Souvenir FM. Un jour, un invité, c'est le 12-13 de Souvenir FM.
Bonjour à toutes et à tous, c'est le moment de votre émission préférée, l'invité du 12-13, un moment privilégié d'échange et de découverte des acteurs locaux, ceux qui font vivre votre territoire au quotidien. Aujourd'hui, nous accueillons Patrick Roudot et Michel Roudot, membres de la Compagnie des sciences et des arts de Souston. Bonjour tous les deux, comment allez-vous ?
Bonjour.
Bonjour à tous.
Très bien.
Voilà. Alors, c'est pas la première fois que vous venez ici, la Compagnie des sciences et des arts est déjà venue pour plusieurs occasions. On va parler de ce qui s'est passé cette année. Et puis il y a un événement qui est quasiment en cours. Hein. Ça démarre le 9. Hein. C'est la fête de la science. C'est quelque chose qui a lieu tous les ans. Et on va en parler parce que il y a un contenu intéressant. Et voilà. C'est parti. Alors, on va faire un petit rappel, sur la Compagnie des sciences et des arts. D'autant plus que nos auditeurs de Dax nous entendent. Hein, voilà. En ce moment, on est sur Dax et sur Souston en direct, suite à une panne. Mais c'est des fois l'erreur créative.
Voilà.
Des fois, ça fait qu'en fait, ça relie les gens. Hein, voilà. Donc, du coup, tout le monde peut vous entendre. Si vous pouvez nous parler un petit peu de cette association.
Oui, alors la Compagnie des sciences et des arts existe depuis de nombreuses années. En ce moment, nous sommes à peu près une douzaine de personnes qui font partie de cette compagnie, essentiellement des bénévoles. Alors certains ont un passé scientifique.
Oui, il paraît.
Et puis d'autres sont très intéressés par la science et puis la diffusion de la science. Notamment en ces temps difficiles pour la méthode scientifique.
Bien sûr, oui.
Dans la société. Donc, le travail cette année, enfin, les occupations principales cette année, on peut les diviser en trois groupes, à savoir une partie importante, c'est l'organisation d'ateliers tous les mois, destinés à des enfants de 6 à 14 ans. On en prend une douzaine pendant 2 heures. Où ils vont faire 4 activités. Mmh. Alors, 3 activités de science et une activité d'art.
Oui, bien sûr.
Puisqu'on fait ces présentations en collaboration avec le CCAS de Souston. Mmh. Alors là, j'ai la liste, si vous voulez. On peut les détailler. Il y en a eu 8, donc,
oui.
En tout, cette année. Notamment, on a démonté un arc-en-ciel.
Voilà.
Alors, l'idée, c'est d'essayer d'expliquer comment la lumière qui est réémise par une goutte d'eau éclairée par le soleil peut créer l'arc-en-ciel.
Voilà, ça, c'est un peu la spécialité de Patrick, parce que je crois que c'est vous qui vous occupez de ça en général, non ?
Oui, c'est moi qui m'en occupe.
Voilà, c'est lui le spécialiste de l'arc-en-ciel.
C'est lui, notamment.
Oui. Alors, on utilise en fait, pour représenter une goutte d'eau, on utilise une boule de verre qu'on éclaire. Mmh. Et puis là, on peut observer la lumière qui est renvoyée en fait vers le projecteur. Puisque lorsque vous voyez un arc-en-ciel, vous avez toujours le soleil dans le dos.
C'est ça, c'est ça. Quand il pleut un peu, qu'il y a un peu de soleil, c'est le bon moment pour se retourner et avoir une chance de voir un arc-en-ciel.
Et on a un petit montage pour visualiser le fait que lorsque l'on voit l'arc se dessiner dans l'espace, en fait, c'est des milliers de gouttes d'eau qui envoient un simple pinceau lumineux vers notre œil.
Oui.
Ce n'est pas une seule goutte qui nous envoie, qui crée l'arc-en-ciel.
Oui, bien sûr.
Ensuite, on a parlé des mondes souterrains. Alors un point important, c'est la sensibilisation au sol.
Oui.
Et au fait, il ne faut pas stériliser les sols en mettant tout un tas de cochonneries dedans, puisqu'il y a beaucoup de petites bestioles qui y vivent.
Oui, ça c'est vrai, oui.
La Compagnie des sciences et des arts travaille en lien avec le jardin partagé de Souston, notamment, qui donc font souvent des démonstrations sur l'humus, la façon dont l'humus se crée, toute la vie, la biodiversité à l'intérieur de l'humus.
Oui, d'accord. Là, on parlait des chauves-souris aussi, les colocations. D'ailleurs, en parlant de sol et chauves-souris, d'ailleurs, le guano de chauves-souris, c'est une chose qu'on utilise aussi, d'ailleurs. Pour amender les sols, parfois.
D'accord, je l'ignorais.
Oui. C'est un peu difficile à trouver.
Vu la raréfaction des chauves-souris à l'heure actuelle.
Ben oui, moins d'insectes, moins de chauves-souris. Enfin voilà, tout est lié ça, dans la nature, ça, on le sait.
Alors ensuite, on avait les odeurs. L'idée, c'est de fabriquer à partir de plantes différents parfums, de fabriquer son propre parfum, mm-hmm. et puis de demander aux autres d'essayer de reconnaître.
En fait, c'est ce qu'on va retrouver aussi dans la fête de la science. C'est un des ateliers, c'est explorer un des sens, donc l'odorat, mmh. En l'occurrence, oui. À travers des activités qui, sous un mode ludique, rappellent les activités des parfumeurs.
Oui, c'est ça. C'est un petit peu de cuisine, un petit peu de chimie.
Voilà.
Oui, et puis les odeurs, c'est aussi un moyen de communication pour les plantes.
Oui.
Par exemple, il paraît que quand les girafes mangent les feuilles d'acacia en Afrique,
oui.
les premiers acacias mangés, ils dégagent des phéromones, ils dégagent des odeurs que repèrent les autres acacias. Pour...
Ouais. Bon, après, ils ne peuvent pas s'échapper. Ouais. Ça peut rentrer les acacias.
Ils ne peuvent pas s'échapper, mais ils se défendent.
Oui, bien sûr. Oui.
Ils diffusent des tanins que n'aiment pas les girafes pour éviter d'être mangés par les girafes.
Et voilà. Bon, voilà, ça, c'est une preuve de... C'est presque une preuve d'intelligence, j'ai envie de dire.
Voilà, c'est un des témoignages, une des expériences à partir desquelles on se pose la question de l'intelligence de la nature, de l'intelligence des plantes.
Et oui.
Alors, il y avait un atelier aussi sur les escargots. Mmh. Parce que, bon, on ne voudrait pas que les escargots soient complètement exterminés, puisqu'ils jouent aussi un rôle très important dans le recyclage des déchets végétaux et dans la qualité des sols. Et puis les escargots, c'est des petits animaux qui sont très sympathiques, dans certaines circonstances, bien
oui,
sûr.
Oui, bien sûr, si vous avez un escargot domestique, vous pouvez le caresser un petit peu. Il n'aime pas trop, mais bon, c'est pas l'animal de compagnie idéal. Mais bon, il y en a qui le mangent, voilà, effectivement.
Oui, et puis dès qu'il voit une ombre, il a tendance à se recroqueviller.
Voilà, c'est ça.
On a fait aussi un atelier sur l'infiniment petit... et sur les êtres microscopiques, notamment la vie dans une goutte d'eau.
Oui, ah oui.
On a récupéré de l'eau dans des petits réservoirs à l'extérieur. Il y a pas mal de vie qui s'est développée. Et puis ensuite, on peut observer à la loupe au microscope.
Il y a toujours de la vie, oui.
Et on avait aussi, dans cet atelier, on essayait d'expliquer comment la matière s'est créée, c'est-à-dire au moment du Big Bang, et comment les noyaux, les atomes se sont formés.
Alors c'est l'occasion de préciser une chose, parce que c'est vrai que j'ai pas d'habitude, on présente un peu plus en profondeur nos invités, mais bon, on a quand même deux personnes, deux scientifiques ici, donc Patrick... Oh, si, quand même. Si.
J'étais prof de lettres.
Ah, bon. C'est pas grave. Et c'est vrai que Patrick est à la retraite, mais était chercheur en physique des particules. Donc voilà, quand il parle d'un infiniment petit, je peux vous assurer que c'est une caution scientifique non négligeable. Voilà, il sait de quoi il parle. Enfin, c'est pas sûr d'ailleurs.
Non.
C'est pas sûr d'ailleurs. Parce que, non.
Au fur et à mesure que l'âge avance, c'est de moins en moins sûr.
Oui.
Non, mais bon, là, ce qui est marrant de réaliser, c'est que dans notre corps, on a des atomes, on a des noyaux à l'intérieur des atomes. Et dans ces noyaux, on a de la matière qui a des températures absolument fantastiques. Mmh. C'est des milliards de degrés.
Oui.
Sauf qu'on ne s'en aperçoit pas, heureusement, parce que
oui.
Tout ce qui est à l'intérieur du noyau ne peut pas en sortir.
Mmh.
Sinon, on serait fait de matière radioactive.
Alors, oui. Bon. Oui, ça serait embêtant.
Bon, ceci étant, par seconde, il y en a 5000 qui se désintègrent dans notre corps. C'est du calcium, du potassium. Et enfin, le dernier atelier, c'était sur les couleurs des plantes.
Mm-hmm.
Mais on va en faire deux autres, sans doute, d'ici la fin de l'année.
Oui.
Alors, autre activité, c'est la participation à des manifestations organisées par d'autres associations, à Souston, ou bien on a participé aussi à une fête à Rivière, à Sasgourbi, à Saubus également. Et puis donc la préparation de la fête de la science qui est faite par notre association entièrement, enfin principalement en collaboration aussi avec d'autres associations.
Oui, de toute façon c'est une chose dont on entend souvent parler ici, il y a aussi un fort dynamisme associatif autour de Souston et ça vraiment c'est... J'ai reçu de nombreuses associations du coin ici et ça je m'en suis vite rendu compte et elles s'interpénètrent, elles collaborent, elles se soutiennent mutuellement.
Oui. ce sont parfois les mêmes qui participent à plusieurs associations.
Oui.
Et donc, du coup, les ponts se font naturellement.
Oui, bien sûr. Oui. Comme l'UTL qui intervient d'ailleurs aussi souvent avec le cinéma grand écran de Tyros.
Ils font des conférences,
etc.
Et on a eu hier le plaisir d'avoir en priorité le film de Panahi,
oui.
Qui a eu la Palme d'Or à Cannes et qui vient de sortir. Mmh. Et le cinéma de Tyros a réussi,
oui.
à voir le film de Panahi. Mmh. Donc, dans le cadre de l'UTL, on a pu assister à la présentation par Hervé Tourneur de Panahi et de ce film.
Voilà, oui, on en avait parlé. Ils sont venus présenter leur programmation, comme toutes les trois semaines, à cette antenne. Ce sont des habitués. Et donc, on va parler forcément de la fête de la science, hein, parce que c'est un événement qui est annuel, qui a lieu. Alors, ça a lieu dans... Il y a plein de villes qui le font, en fait. Hein, voilà, il y a certaines villes en France. Hein, et ça a lieu... Alors, la date, je ne sais pas si elle est fixe ou si elle change.
C'est toujours octobre. Ouais. Le deuxième week-end d'octobre, donc ça varie un peu sur les jours, mais... c'est toujours le deuxième week-end d'octobre. Ça s'étend sur une dizaine de jours. Donc, selon les villes, c'est plutôt le 5 et 6 octobre cette année. Il y a eu quelques manifestations ou le week-end suivant.
Mmh, d'accord. Ouais, donc, c'est un événement national. Et puis, c'est, comment dire, c'est chapeauté quand même par le... Alors, je ne sais pas si c'est le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement.
Le ministère de l'Éducation et de la Recherche.
Voilà, oui. Et ceux qui donnent le tempo chaque année, cette année, c'est nature et intelligence au pluriel.
Voilà, c'est ça. Vers le mois de mai, on a le sujet, enfin le thème de l'année.
Mm-hmm.
Et ensuite, on bâtit un programme. Oui. Si on veut être labellisé, il faut que ce qu'on prépare soit dans le cadre du thème.
Oui, bien sûr, oui.
Et on fait un dossier qui est examiné ensuite, et on peut être labellisé, ce qu'on a été là, ces dernières années, on a été labellisé par le ministère.
Mmh, voilà, on ne peut pas s'improviser comme ça en disant tiens, on va raconter n'importe quoi dans la rue. Contrairement à ce que font tous les influenceurs, eux, ils n'ont pas besoin de labelliser, ils peuvent dire n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quand, il n'y a pas de souci.
Donc là, on fait un village des sciences. Un village des sciences, c'est un thème principal, donc, avec ensuite des sous-thèmes, ils appellent ça des événements.
Oui.
Donc on a 5 sous-thèmes. Et pour toute la région Nouvelle-Aquitaine, il y a 14 villages des sciences qui ont été acceptés et labellisés.
Très bien.
Mais le nôtre, il a un petit parfum local, parce que la plupart de... Enfin, 5 sur les 14 sont faits par des établissements d'enseignement, des lycées, des collèges, ou bien des universités.
Oui.
Ils sont réservés... pas tellement au public, mais uniquement aux scolaires
qui
sont dans le lycée.
Oui.
Par exemple, à Dax, le lycée Borda.
Oui.
Donc, je crois que c'est le 6 et le 7 octobre, fait un village des sciences.
D'accord.
Et ensuite, il y a d'autres villages des sciences qui sont un peu livrés clé en main par des... Alors, je ne sais pas, c'est des organisations... comme Récréascience ou pour le Sud-Ouest,
d'accord.
Je ne me souviens plus. Cap Science aussi.
Oui, Cap Science, oui. Ils sont à Bordeaux, Cap Science, c'est ça ?
Cap Science à
Bordeaux. Voilà, oui, je connais, oui.
Alors là, c'est tout public, mais bon, vous avez un catalogue, vous pouvez cocher.
Oui.
Alors que là, vous avez un produit qui est local.
C'est du local, voilà, c'est un produit local, ça sent le Sud-Ouest.
Circuit court.
Voilà, c'est ça, ouais. Avec un peu de CO2.
Et, création collective.
Création collective,
voilà, voilà. Élaborée en commun. Donc.
Voilà, très bien. Ben, on va détailler ça un petit peu après cette première pause. On va discuter un petit peu de ce programme et comment il a été construit et qu'est-ce qui vous attend si vous venez nous voir. On se retrouve tout de suite après ça. Et nous voilà de retour. Alors on va détailler un petit peu ce programme. Et après, alors je fais une petite parenthèse parce que évidemment quand vous avez une littéraire, un scientifique dans un studio, on discute hors antenne. Et la fête de la science, en fait, ça a été créé aussi pour remettre la science au cœur de la cité aussi, parce que tout le monde n'a pas des formations scientifiques ou techniques suivant les filières qu'on suit, etc. Et la science a drôlement besoin qu'on redore un petit peu son blason aussi, parce que elle a été très esquinté par des tas de gens, parce que de nos jours, n'importe qui peut affirmer n'importe quoi et être entendu par beaucoup de gens. C'est formidable. Oui. Vous allez dire, c'est mon travail aussi, peut-être. Mais bon, j'espère que non.
Voilà, vous faites votre travail, effectivement. Voilà.
J'essaye de ne pas dire n'importe quoi à n'importe qui, mais je dis beaucoup de choses à beaucoup de gens. Et mais... voilà, donc, voilà, c'est important aussi de refaire un petit contact comme ça avec la science au grand public.
La science fait peur, curieusement, parfois. Quand on aborde les gens dans la rue pour leur donner les tracts pour la fête de la science, notamment, alors il y a deux types de réactions. De plus en plus, quand même, à Souston, et ça nous fait vraiment très plaisir, puisque ça fait plusieurs années qu'on organise cette fête, qu'on rencontre les gens, etc. De plus en plus, on a un accueil favorable de gens qui disent « Ah oui, oui, je vais venir », ou bien « Oui, ben c'est, ça, c'est intéressant ». Alors que les premières années, c'était un peu rude parfois comme réponse. Et c'était « Oh non, 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 ça ne m'intéresse pas ça. Hein. Non, ah, oui. Non, non. » Et c'était une réaction de retrait immédiat avec cette impression bon, qu'on a aussi pour le théâtre, hein, par exemple, que les gens n'osent pas aller au théâtre et ils n'osent pas entrer dans des explications scientifiques qu'ils imaginent toujours très complexes, très compliquées, en fait.
Et oui, alors que bon, vous, en tant qu'ancien enseignante, vous avez passé votre vie à, entre guillemets, vulgariser, c'est-à-dire à faire transmettre des concepts, des notions et des valeurs en utilisant le langage et en essayant de faire comprendre des choses à des gens qui n'avaient pas forcément les bases au départ. C'est...
Tout à fait. Puis voilà. Moi-même, je ne suis pas scientifique, je suis le candide ou un des candides de la compagnie. Et donc, on apprend par des choses très simples, des petites expériences, des découvertes. Enfin, moi, je m'enrichis dans le cadre de la compagnie des sciences et des arts.
Oui, d'ailleurs, il y a une époque, jadis, où il n'y avait pas, il y avait des gens qui étaient considérés comme et scientifiques et littéraires, hein, les grands hommes, je ne sais pas comment on les appelle maintenant, mais, qui étaient capables de produire des œuvres de qualité littéraire en étant aussi en défrichant des choses que maintenant qui sont courantes pour nous. Mais voilà, donc à une époque, c'est vrai qu'il y a eu des gens qui étaient vraiment, il n'y avait pas de séparation forcément. Entre les deux.
Pas de séparation. Et je viens de relire là un texte délicieux d'un écrivain, Maurice Maeterlinck, donc fin 19e, début 20e siècle, qui a écrit des pièces de théâtre comme Péléas et Mélisande, qui a écrit aussi des textes scientifiques, des textes sur l'intelligence des abeilles, qu'il observait de près, et sur l'intelligence des fleurs. Et donc, j'ai relu le petit texte d'une cinquantaine de pages sur l'intelligence des fleurs, et qui est d'une précision technique extraordinaire, et en même temps d'un lyrisme tout aussi extraordinaire.
De quelle année on parle ?
1907. Et oui, l'intelligence des fleurs, c'est 1907.
Et voilà, et nous on se croit malin, et bien voilà.
Tout à fait. Et donc il parle déjà de l'intelligence de la nature, de cette espèce de force vitale qu'est l'intelligence de la nature, avec des textes qui sont superbes. Une conclusion très lyrique, je ne sais pas si on a le temps, je l'avais apporté pour vous en lire un petit passage.
Allons-y.
Si on a le temps.
C'est vrai que vous participez aussi au Printemps des Poètes.
Oui.
Non, mais je tiens à le préciser.
Les deux associations interagissent, effectivement.
Bien sûr.
Donc, c'est tout à fait normal.
Oui.
Et il dit, par exemple, « Il ne serait pas, j'imagine, très téméraire de soutenir qu'il n'y a pas d'être plus ou moins intelligent, mais une intelligence éparse, générale, une sorte de fluide universel qui pénètre diversement, selon qu'ils sont bons ou mauvais conducteurs de l'esprit, les organismes qu'ils rencontrent. L'homme serait, jusqu'ici sur cette terre, le mode de vie qui offrirait la moindre résistance à ce fluide que les religions appelèrent divin. Nos nerfs seraient les fils où se répandrait cette électricité plus subtile. Les circonvolutions de notre cerveau formeraient en quelque sorte la bobine d'induction où se multiplierait la force du courant. Mais ce courant ne serait pas d'une autre nature, ne proviendrait pas d'une autre source que celui qui passe dans la pierre, dans l'astre, dans la fleur ou l'animal. »
Très bien, c'est... C'est parfait tout ça. Et c'est, voilà, bah, alors c'est pour ça que, comme je disais, le thème c'est nature et intelligence au pluriel. Parce que encore une fois, alors on en a parlé en antenne, mais c'est vrai que c'est très difficile de donner une définition parfaite et indiscutable de l'intelligence ou de la vie. C'est vraiment des notions que tout le monde comprend. Si je dis à quelqu'un, voilà, ça c'est un être intelligent, ben, tout, ou vivant, ça vous semble évident, vous avez compris ce que j'ai dit. Sauf que si on discute point par point, on peut démontrer chaque point, dire oui mais non. Alors en fait, c'est très compliqué. C'est pour ça que c'est pluriel et pas singulier.
Tout à fait.
Et c'est déjà le moment de faire notre deuxième pause parce qu'on a un petit peu de pub et des messages à écouter. On se retrouve ensuite et on va détailler ce programme. À tout de suite. Et voilà, un petit coup de Tom Jones pour nous filer la pêche. Et donc, allez, jeudi, ça démarre, jeudi 9, à 18h, il y a une cérémonie d'inauguration.
Absolument, mais ça aura démarré dès le matin avec les classes de Souston et de Vieux Boucau. Donc, des classes qui sont reçues par demi-journée, deux groupes de deux classes par demi-journée pour participer aux 8 ateliers de la Fête de la Science.
Voilà.
Chaque classe participe à 4 ateliers et a la possibilité, bien sûr, de revenir ensuite le week-end avec les parents pour découvrir les 4 ateliers auxquels ils n'ont pas pu participer parce qu'en 2 heures, on ne peut faire que 4 ateliers,
oui,
puisque c'est une demi-heure par atelier.
Voilà, c'est vrai qu'il y a une partie voilà, en conjonction avec les établissements scolaires. Voilà, on en amène les élèves et ils peuvent participer à tout ça. Alors, il y a des thèmes. Hein, il y a des thèmes, sans, on détaillera peut-être un petit peu les ateliers et les sujets. Mais il y a, donc, on a parlé, alors je radote, mais intelligence au pluriel, j'insiste, hein, voilà, justement, pas croire qu'il n'y en a qu'une intelligence. Et justement, c'est... ce programme a été construit aussi autour de cette notion pour bien mettre en avant que voilà, il n'y en a pas qu'une intelligence et il y en a plein. Donc il y a les super pouvoirs de nos cerveaux.
Alors le thème des super pouvoirs de nos cerveaux, c'est en fait réfléchir à une notion qui a été introduite en France dès après la guerre par René Zazo dans la pédagogie. C'était la notion d'intelligence multiple, c'est-à-dire que l'intelligence humaine n'est pas seulement celle que mesuraient les QI qui étaient à la mode, qui l'ont été beaucoup dans les années 50 et 60, donc intelligence verbale ou intelligence logico-mathématique, mais qu'il y avait aussi des capacités différentes qui faisaient partie aussi de la perception de l'environnement, qui est un des éléments de l'intelligence, puisque bon, dans les définitions diverses de l'intelligence, il y a cette notion que on capte les données de l'environnement par nos sens pour les retenir, les réorganiser en vue d'une action qui généralement est une action d'adaptation à cet environnement, de meilleure adaptation à cet environnement.
Oui.
Et donc, dès l'après-guerre, plusieurs courants de la pédagogie ont insisté sur le fait que pour apprendre, il fallait passer par des formes diverses d'intelligence, par exemple la perception du corps dans l'espace, donc aussi bien le geste graphique ou dans la pédagogie Freinet, le geste de fabriquer, de la fabrication donc des journaux pour Freinet. Cette pensée de la pédagogie a été ensuite remise à l'ordre du jour par un Canadien dans les années 1900. Bon, l'idée a été lancée dans les années 1980-1983. Il a parlé d'intelligence multiple en parlant par exemple de l'intelligence musicale ou de l'intelligence des relations sociales, de la perception par l'empathie de ce que pouvaient ressentir les autres. Donc lui a distingué 8 types d'intelligence. Bon, la liste est discutée, c'est pas très forcément très rigoureux sur le plan de la répartition de ces formes, de ces capacités en fait de compréhension, mais c'est une notion qui diffuse de plus en plus dans la pédagogie le fait que pour apprendre il faut passer par des voies diverses parce que chaque enfant a des compétences diverses et que c'est en s'appuyant sur ces compétences qu'il peut combler ce qui était auparavant ressenti comme des manques. On peut se développer et apprendre en s'appuyant sur ses points forts. Et c'est ça l'idée, c'est que il y a des intelligences différentes et que chacun doit trouver sa propre forme d'intelligence.
Tout à fait. Alors, il y a une conférence vendredi à 18h30 de Madame Mounier qui s'appelle « Des intelligences multiples ».
C'est cela.
Donc, je suppose qu'elle va aborder tous ces sujets.
Oui, alors en fait, ce n'est pas Olivia Mounier qui va pouvoir venir, mais sa collaboratrice avec 34 personnes qui vont raconter, témoigner de leur propre parcours de vie pour montrer comment ils ont développé à partir de leur propre interrogation, donc ils ont développé leur capacité pour arriver à s'accomplir mieux en jouant justement sur des formes diverses d'intelligence.
D'accord. Oui. Alors c'est vrai qu'on a parlé aussi les autistes sont des gens qui ont des formes d'intelligence différentes. Il y en a qui sont super intelligents sur une chose très pointue, voilà, et pour le reste tout ce qui est humain, social, c'est compliqué pour eux, et voilà. Voilà, c'est bien la preuve que dans l'être humain la variation est grande. Alors il y a aussi des ateliers, des sujets qui portent sur les animaux, notamment les oiseaux. Alors quand je disais que c'était vraiment impossible de donner une définition complètement juste à 100%. On pourrait dire que les êtres humains sont intelligents, ils savent utiliser des outils. Manque de bol, ce ne sont pas les seuls.
Effectivement, les oiseaux, donc, certains corvidés, notamment, arrivent à façonner avec des feuilles, des languettes, des petits outils qu'ils manient avec leur bec pour récupérer des insectes.
Oui, voilà. Ils fabriquent des nids, ce dont je serais incapable de faire moi-même. Je sais pas, j'ai pas construit ma maison, mais il y a des oiseaux qui savent le faire. Hein.
Oui, et puis il y avait une histoire aussi en Angleterre, je crois. Ils avaient l'habitude de distribuer des bouteilles de lait.
Oui,
avec
des corneilles.
Des capsules et les mésanges.
Les
mésanges arrivaient à percer les capsules pour récupérer du lait.
Et, et on sait même qu'il y a des oiseaux qui mettent le feu, notamment des corneilles qui vont récupérer des branches enflammées pour le mettre le feu ailleurs parce qu'elles ont bien compris que quand il y a le feu dans une forêt, les proies elles s'échappent et c'est le moment de les attraper. Donc il y a même des corneilles qui sont incendiées en fait. Les corvidés sont remarquables intelligents. C'est vrai qu'il y a eu plein d'expériences qui l'ont démontré.
Oui, puis on a démontré récemment, je crois, on s'intéresse de plus en plus à des formes différentes, donc de cellules de neurobiologie, et par exemple, même les étoiles de mer, les méduses, qui n'ont pas de cerveau central comme nous, ont des neurones et des synapses qui transmettent une information du même type que notre pensée, même s'il n'y a pas de cerveau.
Oui. Voilà. Et donc ensuite...
Il y a pas mal d'ateliers aussi qui sont sur les sens, parce que pour avoir de l'information, il faut d'abord la capturer.
La capturer, l'émettre, etc.
Et
bien sûr.
Pour l'homme, on a les sens habituels, quoi. L'ouïe, l'odorat, le toucher, et puis j'en ai oublié. Hein.
Le goût
la chaleur.
Voilà.
Oh, puis la liste n'est peut-être pas exhaustive non plus. Hein,
non,
après
non,
tout.
Non, non,
après
non.
Tout.
Il paraît que maintenant, on a 13 sens, ou je ne sais combien.
Ah oui, bah.
Ça s'est agrandi récemment. Donc, on a différents ateliers qui sont notamment un atelier sur le son, d'ailleurs.
Oui.
Où on va montrer comment passer du son, la vibration, à un signal électrique, un peu comme dans notre cerveau, les signaux qui arrivent sont des signaux de type électrique.
Oui, voilà. Patrick me tend la perche. Bon, voilà, c'est l'occasion, c'est l'occasion de me dévoiler. Donc, effectivement, j'animerai cet atelier samedi et dimanche sur le son. Donc, comment est-ce qu'on crée du sang et pourquoi, les phénomènes physiques et physiologiques qui font que cette communication, qui n'est pas la seule, bien entendu, mais voilà, c'est celle que j'utilise en tout cas en ce moment pour vous parler, chers auditeurs. Il y a des choses qui sortent de ma bouche qui vont jusqu'à vos oreilles. On fait du bouche à oreille à la radio, c'est comme ça.
Alors, on a aussi un atelier qui regroupe plusieurs notions, à la fois l'ouïe et le toucher. Mmh. C'est un atelier qui est en ce qu'on appelle un jeu d'escape game. Mmh. J'arrive pas à mémoriser le nom en français, mais enfin. Donc, dans cet atelier, on va demander aux participants de retrouver ce qui est un motif qui est à l'intérieur d'une boîte. Mmh. Disons qu'on a des petites boîtes, genre boîte à camembert ou boîte carrée, qui sont faites en Lego, par exemple. Mmh. Et à l'intérieur, on a créé une structure. Alors là, ça va être des structures relativement simples, genre carré, rectangle, cercle, triangle, avec une bille qui est à l'intérieur. Et en bougeant la boîte, on doit, par le son et puis aussi le mouvement de la boîte, on doit être capable de retrouver la structure. En fait, ce jeu est dérivé d'une proposition qui a été faite pédagogique, qui a été faite au CERN.
Oui.
Pour essayer d'expliquer comment on peut arriver à détecter des objets qu'on ne voit pas directement. Par exemple, vous avez un accélérateur qui n'a pas assez d'énergie pour fabriquer de nouvelles particules, de nouveaux constituants. Mais si vous mesurez précisément certaines réactions, vous pouvez vous apercevoir qu'au moment où il y a eu l'interaction... Mmh. Il y a des objets cachés qui ont participé. À ce moment-là, ça va modifier légèrement les résultats de l'expérience.
C'est comme ça qu'on va les détecter et on pourra parler d'eux alors qu'on ne les voit pas directement.
Voilà.
C'était Guillaume, la théorie des cordes. C'était un petit clin d'œil aussi à notre invité, parce que la théorie des cordes, ça sert. C'est pas que pour les guitares, c'est aussi en physique, même si c'est sujet à caution. Donc alors, il se passe des choses aussi intéressantes, c'est qu'il y a un magicien qui vient. Alors magie et science, mais alors là, patatras, qu'est-ce que c'est ce bazar ?
Alors, l'objectif, c'est que le magicien va capter votre intérêt, bien entendu, vous montrer des choses, et ensuite va déconstruire ce qu'il a fait pour vous montrer comment votre cerveau peut se laisser prendre à des illusions. Il faut se méfier parfois, on est le dupe de ces impressions. Et donc, il va essayer d'ouvrir vos yeux sur cette faculté qu'on a à se laisser prendre à des illusions.
Oui, c'est vrai que c'est ce qu'on appelle les biais cognitifs. Hein.
Voilà.
Je crois qu'on enseigne un petit peu en SVT. Hein. Je connais des gens on en prend un petit peu aux élèves, justement, qu'on se rend compte que le cerveau humain, même en ayant discuté avec, il n'y a pas longtemps, des gendarmes qui sont venus ici, témoignage, c'est toujours sujet à caution. Parce qu'en fait, le cerveau, c'est pas un organe neutre qui retransmet fidèlement des informations, loin de là, malheureusement loin de là.
Oui, donc ça sera une occasion de réfléchir à ça tout en prenant plaisir avec ce contact.
Le magicien animera un atelier pendant les deux jours où il y aura les scolaires. Donc comme on l'a dit, uniquement la moitié des élèves auront pu aller à cet atelier, donc revenez le week-end
venez le week-end,
la deuxième moitié.
Ce sera moins formel.
Et ce sera le samedi de 15h à 18h.
Mmh. D'accord. Bon, ça va faire venir les magiciens, ça va faire venir des jeunes, hein, parce que quand même, ils aiment bien ça en général.
C'est ce qu'on espère, c'est pour ça aussi qu'on l'a convié et qu'il vient nous rejoindre.
Bien sûr.
Et puis le dimanche matin, il y a une sortie champignon en lien avec la Soumila et le service environnement de Souston. Donc, allez découvrir les champignons qui commencent à pousser, même si c'est encore sec. Là, il y en a pas mal. Mmh. J'en ai découvert deux magnifiques ce matin, à côté des jardins partagés, qui étaient les champignons rouges et noirs de l'album de Tintin,
L'île mystérieuse.
L'île mystérieuse.
Ceux-là, je crois qu'ils sont pas bons, ceux-là.
Je ne pense pas qu'ils soient bons, mais en tout cas, ils sont tout à fait étonnant. Oui. Et donc, il y en a sur nos pelouses.
D'accord.
Peut-être qu'on peut rappeler qu'il y aura aussi des objets qui ont été fabriqués suivant le thème de l'intelligence par des élèves des classes qui vont venir en visite.
Oui.
Oui,
une restitution, ils ont fait des choses. Alors, c'est quoi les scolaires? C'est des collégiens essentiellement ou est-ce
des primaires?
Des primaires, c'est des primaires, d'accord.
Ce sont des primaires, effectivement. Et tous les ans, comme c'est la Compagnie des sciences et des arts, et la passerelle du CCAS est associée, crée des découpages, des collages, des sculptures, des dessins qui sont souvent extrêmement réussis. Mmh. Et donc, la passerelle anime des ateliers et va participer, mais les écoles apportent aussi leurs créations qui sont exposées dans la salle à Nost à Souston.
Mmh, d'accord. Bon, on espère qu'il y a plein de gens qui vont venir. Alors, ces ateliers, bon, on a parlé tout à l'heure aussi, on va vous démontrer aussi qu'effectivement, la science n'est pas un dogme et que ça se discute. Donc, bien entendu, il y aura un espace d'interrogation, hein, pas juste de démonstration académique, c'est aussi les gens qui ont des questions à poser, ils se posent des questions, ben on sera là pour leur répondre, n'est-ce pas?
On essaiera, on pose essentiellement des questions d'ailleurs. Et puis, en plus, ce qu'on souhaite aussi, c'est que ceux qui viennent, donnent leurs vœux, leurs souhaits pour des ateliers à venir. Il y a eu un début de sondage au Forum des associations sur les thèmes qui pouvaient intéresser le public. Mmh. Et donc, on va continuer ce sondage pour essayer de répondre ou en tout cas d'apporter des éléments par rapport aux questions que tout un chacun peut se poser.
Mmh. Alors, il y a des activités, bien sûr, artistiques, hein, puisque, bon, après tout, c'est votre fonds de commerce, hein, les sciences et les arts. Donc, il y a de la peinture et de la sculpture aussi. Ça, c'est... je vois Angélique Roche, Yéno, Atelier Plastique de la Passerelle. De la photographie aussi.
Voilà. Il y a une partie exposition, donc, avec des œuvres d'art qui sont exposées et qui changent en fonction du thème. Il y a effectivement cette année photographie, peinture comme d'habitude, sculpture aussi puisque nous avons aussi une céramiste qui fait partie de l'association et qui nous apporte chaque année une sculpture qui est liée au thème de l'année.
Et alors c'est possible de savoir une idée de ce que c'est ou c'est secret?
Pour l'instant, je ne le sais pas.
D'accord. Elle aurait pu sculpter un œil ou une oreille, par exemple. Où on est?
Ah, mais je pense que la présidente de l'association a déjà sculpté avec la céramiste une oreille qui sera exposée, j'imagine.
Il me semble que j'ai eu quelques échos à ce sujet.
C'est la pâte modelée. Hein.
Non, oui, c'est de la céramique.
Sculpture, tout ça. Même l'impression 3D, c'est la... Ah oui, ouais, c'est une oreille cassante. Faire attention.
Voilà.
Et voilà, et donc...
Mais qui résonnera sûrement.
Oui, j'espère bien. Ouais, et puis donc, on n'a pas parlé du tout, mais c'est vrai qu'on va parler des oiseaux, hein, parce que... Et puis le langage des oiseaux, parce que les oiseaux, pour notre plus grand plaisir, c'est vrai qu'ils chantent et tout, mais c'est pas pour nous faire plaisir qu'ils font ça, c'est qu'en fait, c'est des outils de communication, hein, voilà, bien précis. Bon, on n'aura pas non plus de baleines ni de cétacés, mais voilà, ça fait partie des animaux dont on a découvert quand même, on a bien compris que, y compris les éléphants, et tout toutes ces créatures discutent entre elles. Elles se disent des tas de choses que nous, on n'entend pas et on ne comprend pas.
Absolument. Et par des moyens divers, puisqu'on explore les moyens de communication, par exemple, entre les fleurs et les insectes, par l'odeur, par les couleurs, par des signes qui nous paraissent, à nous, humains, purement esthétiques, mais qui ne sont pas faits pour notre plaisir, mais qui sont faits dans le but d'attirer des insectes qui vont ensuite favoriser la reproduction des plantes et des fleurs.
Bien sûr. Ouais, et puis tout ça, c'est une leçon aussi par rapport à... On parlait des biais et tout. On va peut-être découvrir des choses. Voilà, c'est ça. On dira, ah ben mince, alors moi, je croyais que... Et en fait, les choses sont toujours un petit peu... plus compliqué qu'on ne le croit, malheureusement.
Voilà. Et puis, on verra aussi comment l'intelligence collective est quand même une force extraordinaire, puisque Linda nous parlera des abeilles, nous montrera l'intelligence collective des abeilles.
Et oui, bien sûr. Les abeilles, les fourmis, c'est des créatures prises individuellement. Bon, on ne peut pas en dire grand-chose, mais on se rend compte qu'en groupe, elles accomplissent des choses qui paraissent incroyables. Donc, il se passe bien quelque chose.
Voilà. Et des modes de communication... Oui. que vous allez voir, découvrir, oui. Les enfants pourront manipuler, je pense aussi.
Oui, bien sûr. On parle aussi du cerveau, c'est intéressant aussi, parce qu'un un neurone tout seul, c'est pas grand-chose. Un cerveau, c'est des millions ou des milliards de neurones, et là, tout à coup, il se passe quelque chose.
Et c'est surtout des synapses, voilà. C'est-à-dire des liens entre les neurones. Voilà, un neurone sans synapse, il est muet.
Voilà.
Tandis qu'un neurone a autour de lui des milliers de synapses.
Oui. Et c'est la communication qui...
Voilà.
L'intelligence découle de la communication.
Absolument. Alors,
il faut que vous veniez, chers auditeurs, vous veniez, on va avoir un tas de choses à discuter parce que, voilà, vous allez découvrir que dans le son et dans tout, le cerveau, tout, c'est toujours l'électricité. Ce truc un petit peu bizarre, hein, mais qui, voilà, y compris dans les êtres humains et dans les machines industrielles qu'a créé l'homme, l'électricité, c'est universel, en fait. Voilà.
Voilà. Mais on a éliminé l'IA de notre sujet.
Ah non, j'ai pas bien entendu. Bah, écoutez, on arrive à la fin de notre émission, hein. Il faut qu'on rende l'antenne à un moment donné. Ben, merci beaucoup d'être venu et de nous avoir donné un peu envie de découvrir tout ça et puis de, voilà, comme je disais, de remettre un petit peu la science au centre du village et de voir que, voilà, on se prend pas la tête. C'est, non, au contraire, on la remplit avec l'intelligence, la nôtre et celle des autres.
Voilà.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci
et puis,
à vous.
À bientôt.
Bon, mais à très vite, hein.